C'est en quelque sorte le grand lancement de la campagne présidentielle américaine, le premier stress test pour les candidats républicains, le moment où ils sont sanctionnés ou non par les électeurs, plutôt que par les sondages. Même si tout est à relativiser, le caucus de l'Iowa est un moment important dans la vie politique américaine. Par moins 30 degrés, les électeurs républicains se sont déplacés pour mettre en tête Donald Trump, avec plus de 30 points d'avance sur ses deux adversaires, Nikki Haley et Ron DeSantis. Mais comme souvent aux États-Unis, rien n'est joué d'avance. Dans cette lettre d'Amérique, je vous emmène à Des Moines, capitale de cet état du Midwest américain, qui a été sous le feu des projecteurs médiatiques pendant plusieurs jours. Hi everyone, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle lettre d'Amérique. Cette lettre, je vous l'envoie depuis l'aéroport de Des Moines. Alors, je prononce Des Moines à la française, mais ici on dit Des Moines. Je vous envoie cette lettre alors que ma mission pour RTL et M6 se termine dans la capitale de l'état de l'Iowa, ici. Mon avion est malheureusement annulé, et d'ailleurs le vol direct entre Des Moines et New York était plein presque 2 mois à l'avance, surbooké. Je devais passer par Détroit pour retourner à New York. Eh bien, c'est ce vol Des Moines-Détroit qui est désormais annulé. Je vais devoir passer par Minneapolis. Minneapolis qui est situé dans l'état du Minnesota. Et le Minnesota, eh bien, c'est l'état juste au-dessus de l'Iowa. Il a d'ailleurs une frontière avec le Canada. Si je vous parle d'abord de mes petits problèmes de transport, c'est car la météo ici a été un vrai sujet d'inquiétude, de questionnement, un facteur important lors de ce caucus. Plusieurs centaines de vols ont été annulés depuis et vers l'Iowa, ce qui a franchement compliqué le travail des médias venus du monde entier. Cette année, ce sont près de 1000 reporters, 1000 journalistes venus de différents pays qui se sont accrédités au centre des médias de Des Moines pour suivre ce caucus. Alors c'est moins qu'en 2020 où le consortium qui s'occupe d'accueillir les journalistes recensait 2600 journalistes représentant plus de 26 pays. Je trouve ça important de vous donner ces chiffres car on en reparlera un peu plus tard, mais au fond un caucus, il s'agit d'une petite élection régionale assez archaïque, des groupes de sympathisants qui se retrouvent dans des écoles, des gymnases ou encore des églises pour voter sur un petit bout de papier, et pourtant, eh bien la couverture médiatique est absolument dingue. J'ai eu l'occasion en France de couvrir certains grands événements électoraux. Et je dois bien avouer que quand je vois mes confrères américains et leur dispositif médiatique lors de cet événement, eh bien ça reste tout de même très impressionnant. Je reviens un petit moment sur la météo. Lorsque j'ai pu atterrir ici à Des Moines quelques jours avant la date du caucus, la météo était franchement dantesque. À travers les vitres de l'avion dès l'atterrissage, eh bien, il y avait des rafales de vent qui ont fait bouger le fuselage de l'appareil. Il y avait de la neige, de la glace, bref, un paysage polaire, et une fois la porte ouverte, et bien là, c'est un froid qui a saisi tous les passagers, encore bien installés dans le chaud très confortable, très douillet de l'avion, et dans la passerelle de la neige, je dis bien dans la passerelle, et sur les portes, il y avait de la glace, le ton était clairement donné. Alors, je ne suis pas originaire de Paris, mais de l'est de la France. J'ai connu des hivers rigoureux avec des réveils matinaux et des températures glaciales pour aller prendre le bus au petit matin. Mais un blizzard comme celui-là, franchement, je n'avais encore jamais connu. Pour tenter de vous décrire la sensation, eh bien, si vous sortez sans gants, sans écharpe ni cache-nez, eh bien, votre peau va commencer à rougir, voire devenir un peu bleue. Vous allez perdre les sensations assez rapidement, puis le froid vous saisit, vous mord et vous brûle. Les autorités ont d'ailleurs prévenu à ces températures qui sont parfois de moins 30 degrés en ressenti. Si vous restez plus de 10 minutes sans protection, eh bien vous risquez une engelure, voire même plus grave. Alors par chance, j'étais équipé comme il le fallait, mais les routes étaient gelées et le blizzard en pleine nuit. Eh bien, je ne le conseille à personne, tellement vous pouvez vous sentir un peu seul en quelques instants. Et comme le dit cet habitant de l'Iowa que j'ai rencontré en sortant de l'aéroport,
quand le soleil se couche, c'est la vie ou la mort. Si vous êtes bloqué quelque part, vous gelez avant qu'on ne puisse venir vous chercher.
Bref, voilà le contexte de ce caucus dans l'Iowa. Alors parlons-en de ce caucus, car pendant des semaines, vous avez dû en entendre parler peut-être, sans jamais vraiment savoir ce que c'était en détail. Je vais donc essayer d'être le plus synthétique possible. Disons qu'un caucus, à la différence d'une primaire, un caucus, c'est organisé par un parti. Ici, c'est donc le parti républicain. Le caucus sert à désigner le candidat républicain à la présidentielle uniquement pour un État. Alors, vous avez peut-être en tête le modèle d'élection français d'une primaire avec des bulletins de vote préécrits, etc. Ce n'est pas le cas du tout ici. En réalité, un caucus, c'est une réunion qui se déroule dans une école, dans un gymnase ou encore une église. Certains arrivent avec des casquettes Trump, d'autres avec des t-shirts Ron DeSantis ou encore des pancartes « Pick Nikki Haley ». Puis certains prennent la parole, tentant d'expliquer pourquoi ce candidat est le meilleur candidat républicain à leurs yeux. Et une fois que tout le monde a parlé, une fois que tout est terminé, eh bien le vote a lieu sur papier libre. On écrit le nom de son candidat préféré. À la fin, un comptage est réalisé dans chaque caucus, chaque réunion. Et c'est comme ça qu'une fois tous les bulletins comptés, on a la liste des candidats choisis par les républicains de l'État et un gagnant très attendu. Les résultats, les voici. Vous les connaissez peut-être. Donald Trump, 51% des voix. Ron DeSantis, 21%, suivi de Nikki Haley avec 19% des voix. Des résultats sans surprise, tous les sondages donnés à Donald Trump en tête de ce caucus, qui lance bien souvent la bataille de la présidentielle américaine, même si j'en parlerai tout à l'heure, il faut tout de même, je pense, faire attention aux conclusions nationales qu'on peut en tirer. Parlons un peu des candidats, bien entendu. Il y a d'abord Donald Trump, le vainqueur, ex-président des États-Unis, 77 ans. Il s'est à nouveau lancé dans la course à la présidentielle. Il veut à tout prix mettre fin à l'administration Biden et a expliqué d'ailleurs, je cite, qu'il serait un dictateur, mais uniquement le premier jour. Fin de citation. Le programme de l'ex-président est tourné, comme en 2016, vers la fin de l'immigration massive aux États-Unis, avec la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, mais également la souveraineté énergétique, mais aussi la sécurité. Voilà ce qu'il a par exemple déclaré le soir de sa victoire à Des Moines.
Je vais donner une immunité aux policiers, comme ça quand ils font quelque chose, ils ne seront pas poursuivis et stoppés, et on va mettre fin aux crimes dans nos villes, explique le président.
À la deuxième place, Ron DeSantis, il est l'actuel gouverneur de Floride. Solide hein, sur ses appuis, c'est un ancien militaire, il a 45 ans, il défend les valeurs conservatrices de son parti, il plaît aux républicains les plus rigoristes. À la troisième place, Nikki Haley, 51 ans, ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle séduit notamment les plus modérés dans le camp des républicains. En réalité, lors de ce caucus, c'est surtout la deuxième place qui a été scrutée cette année. Il y avait assez peu de doutes en fait sur le fait que Donald Trump allait l'emporter. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qui a été choisi par les républicains en seconde position. Et c'est donc Ron DeSantis, le plus rigoriste des deux. Et je n'oublie pas non plus Vivek Ramaswamy, 38 ans, jeune patron d'une société pharmaceutique. Il est arrivé quatrième de ce caucus, mais il a décidé de suspendre sa campagne après ses résultats décevants. Il s'est désormais rangé aux côtés de Donald Trump. Donald Trump donc clairement au-dessus de la mêlée, comme attendu par les sondages, et désormais confirmé par ce premier vote. Alors pour comprendre quel est l'engouement des électeurs cette année pour Donald Trump, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Montez avec moi dans le pick-up de Ralph et Cathy. Pourquoi dans un pick-up? Déjà car c'est assez courant ici comme véhicule dans l'Iowa, mais surtout il fait moins 22 degrés dehors. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ralph a 66 ans, c'est un ancien ouvrier sur les chantiers de construction et surtout il a déjà participé à 4 meetings de Trump.
Je suis un supporter de Trump depuis le jour où il s'est présenté. Je ne pouvais pas rester comme ça après 8 ans d'Obama, ça me rendait malade.
Désormais retraité, il explique que les médias sont corrompus et que l'administration Biden fait tout pour barrer la route à son candidat, même si 91 charges pèsent contre l'ancien président, Ralph prévient.
Si ça se passe et qu'ils le mettent en prison, je peux vous dire qu'il y aura une guerre dans ce pays. Ils font tout ce qui est possible pour l'écarter.
À ses côtés, Cathy, sa femme, elle a 60 ans, elle est désormais retraitée. Juste avant, elle était banquière. Elle aussi est une fan de Donald Trump.
Of course.
Et pour elle, l'ex-président a tout réussi dans sa vie.
He is the only one that could do it.
Il est le seul qui peut le faire. Je le pense vraiment. Ils ne peuvent pas trouver quelque chose de mal chez lui. Il est une bonne personne. Il était un bon président. Il a fait du bien au monde.
He did the world good.
Il est sans doute le meilleur président que les États-Unis n'ont jamais eu.
Arrivé au petit matin, Cathy et Ralph sont dans les premiers rangs lors du meeting au Simpson College. Ce couple est assez emblématique de ceux qui viennent assister au meeting de Donald Trump. Ils ne viennent pas ici pour être convaincus. Ils le sont déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en réalité. Beaucoup pensent que Donald Trump a été le meilleur président des États-Unis, toute période confondue. Je dirais même, pour avoir discuté avec bon nombre d'entre eux, que certains sont tout simplement fans de lui, peu importe le projet qu'il puisse proposer. Et ses ennuis judiciaires, les 91 charges criminelles pesant toujours contre lui, n'ont absolument aucun effet sur ses électeurs bien déterminés à ce qu'il devienne le prochain président des États-Unis. Ses électeurs, j'ai pu également les rencontrer lors de son dernier meeting avant le caucus. Donald Trump est arrivé avec presque 2 heures de retard, il faisait très beau, mais terriblement froid. Et pour vous raconter les coulisses, les journalistes pouvaient aller se réchauffer dans un bus pendant quelques minutes avant de ressortir pour faire des interviews. Sinon, franchement, c'était intenable. Par moins 20 degrés, si vous n'avez pas de gants ou des gants trop fins, c'est tout simplement pas possible. J'aimerais du coup vous faire écouter le reportage que j'ai pu réaliser pour M6 et qui montre bien les motivations des sympathisants venus lors de son dernier meeting. Dans cette université, à 20 minutes de Des Moines, la capitale de Iowa, ils sont plusieurs centaines à faire la queue par moins 22 degrés pour tenter d'apercevoir Donald Trump. Certains le voient même comme un sauveur.
Je veux qu'il gagne. Je veux retrouver notre pays, oui. Parce que c'est le bazar en ce moment. En fait, ça me fait juste peur pour mes enfants.
Des enfants, il y en a également à ce meeting, venus avec leurs parents.
Je ne connais pas grand-chose à la politique, ni à toutes ces choses-là, mais mes parents sont là, donc du coup, j'ai dû y aller avec eux. C'est une expérience, quelque chose que ma maman et moi, on ne va jamais oublier. Un souvenir que j'aurai toute ma vie.
Je le soutiens et toute ma famille aussi, c'est important pour nous.
Et dans la foule, quelques opposants au président sont venus tenter de convaincre les électeurs républicains que Donald Trump n'est pas le bon candidat.
Ici, c'est très facile de s'emballer pour un candidat avec l'idée que ça y est, c'est le candidat, c'est lui que je vais soutenir, mais les républicains n'ont pas encore choisi. Il y a encore d'autres options et je veux m'assurer que ces gens sont au courant de ça. Et comme je suis étudiant, j'ai la possibilité de le faire sur le campus.
91 charges criminelles pèsent toujours contre l'ancien président, qui risque plusieurs condamnations, mais pour ses électeurs, tout cela est clairement téléguidé.
Vous savez, ça peut arriver à tout le monde. S'ils veulent vous harceler et vous poursuivre, ils vous poursuivront.
Lors de son meeting ici au Simpson College, Donald Trump a exhorté ses fans à aller voter pour lui lors de ce caucus. Comme les autres candidats, il est inquiet de la météo ici et de ses effets potentiels sur la participation. En effet, depuis plusieurs jours, il fait moins 30 degrés et la situation ne va pas s'arranger avant au moins une semaine. Alors je vous en parlais un petit peu plus tôt, même si le caucus de l'Iowa est très médiatisé. Il faut pour autant replacer cet événement médiatique et électoral dans un contexte. C'est le premier test électoral de Donald Trump. C'est un succès, c'est vrai. Ce caucus a surtout permis de mesurer à quel point le soutien de ses militants est fort et se traduit dans les urnes. Mais attention, une élection dans l'Iowa ne fait pas l'élection présidentielle américaine. La primaire de l'État du New Hampshire va peut-être pousser les candidats arrivés deuxième ou troisième un peu plus haut. Il y aura aussi le Super Tuesday, le mardi 5 mars, 16 États et territoires votent en même temps pour élire leurs délégués qui choisiront ensuite les candidats républicains. Et puis, autre élément important par rapport à toute la population américaine, l'Iowa n'a que très peu de délégués. Il n'y en a que 20, alors que par exemple en Caroline du Sud ou dans l'Alabama, il y en a 50. Le poids est donc très différent. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra correctement analyser les scores de l'ancien président et des autres prétendants républicains aussi, toujours dans la course à la Maison-Blanche aujourd'hui. Voilà pour cette lettre d'Amérique postée ici depuis Des Moines dans l'Iowa par moins 18 degrés. Comme toujours, on se quitte en musique, bien sûr, avec cette superbe ballade que j'ai trouvée il y a quelques jours, qui parle de cet état américain qu'est l'Iowa, où il faut bien l'avouer, j'ai été très chaleureusement accueilli par les habitants ici, j'ai passé de très bons moments. Voici Iowa par Donovan Woods et Ifa O'Donovan. Thank you and goodbye.
I am waiting for this book to get good. I do not have your patience. So I'm driving up to Chicago. I'm getting weird looks at gas stations. I did not bring foresight. A holistic practitioner told me once,
why I will not live a long life. I am trying to remember where I gave up. If it was not in Iowa, Iowa, somewhere in the middle of the Great Plains, I saw a little girl waving her hand at the window of a car, saying goodbye to her mom. Iowa, where the tall grass prairie used to ripple like the ocean breeze, and the hummingbirds still suckle from the flowers in the trees. It'd bring you to your knees. I can imagine my whole life, sweet and never ending. In every house I float by, but they never let me blend in. I called a taxi in Des Moines.
Venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL et sur vos plateformes d'écoute préférées.